Le journal Emmanuel Imbanda.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour cette édition dominicale du journal parlé sur la radio Okapi, au sommaire du journal. Thomas Lubanga devant la CPI Kupena International demain. La CPI va s'assurer de son état de santé. Le leader de l'UPC, Union des patriotes congolais, devra également connaître les charges retenues contre lui. Recrudescence de l'insécurité à Guémena au nord de la province de l'Équateur. Une insécurité consécutive à la présence de plus de 2000 militaires dans cette ville. Les détails dans ce journal avec Paul-Richard Malengel. Dans la province orientale, des villages entiers ravagés par la maladie du sommeil, la cécité des rivières, des milliers d'hommes et de femmes vivent nus et manquent de tout. C'est les tableaux sombres de la situation humanitaire de trois territoires du district de la Tchopo, décrits par OCHA, le Bureau des Nations Unies chargé de la coordination de l'aide humanitaire. Les détails du journal à présent. La Cour pénale internationale est décidée à poursuivre toutes les personnalités impliquées dans les crimes contre l'humanité et crimes de guerre en République démocratique du Congo. Après l'arrestation de Thomas Lubanga, plusieurs autres personnes seront poursuivies pour le même motif, pour que justice soit rendue aux victimes de ces atrocités. Ceci ressort de la téléconférence de presse tenue hier à La Haye par le procureur général de la CPI, téléconférence à laquelle ont participé aussi les journaux congolais. Le Point avec Kéline Kouté.
Selon le procureur général de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, cette arrestation constitue une avancée significative dans la procédure menée par la Cour pénale internationale. C'est en vue de lutter contre l'impunité dont jouissent les auteurs présumés des crimes de guerre et crimes contre l'humanité sur le territoire congolais. Toujours selon Luis Moreno Ocampo, la Cour pénale internationale poursuivra sa mission en initiant d'autres mandats d'arrêt à l'encontre d'autres personnes qui portent la plus grande responsabilité dans ces crimes imprescriptibles en RDC depuis juillet 2020. Il a précisé que ce sont tenir compte ni de leur position officielle dans les institutions publiques ni de leur nationalité. Des enquêtes sont actuellement en cours. Elles déboucheront sur des requêtes d'autres mandats à l'encontre de certaines personnalités congolaises. La Cour pénale internationale entend avancer par étapes et le présent mandat se veut le premier d'une série d'autres mandats.
Thomas Lubanga comparaît demain devant la chambre préliminaire, une des chambres de la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. Selon le procureur adjoint chargé des poursuites, l'ancien leader de l'Union des patriotes congolais devra connaître les charges retenues contre lui. La CPI s'assurera de sa santé, nous l'avons dit au sommaire du journal. Madame Satouben Souda, que nous avons joint hier à La Haye.
Il est bien arrivé hier soir et maintenant il est en détention.
Maintenant que Thomas Lubanga est à la Cour pénale internationale, comment ça va se passer par la suite?
Mais lundi, on va avoir la première procédure devant la chambre préliminaire de la Cour.
C'est-à-dire?
La chambre préliminaire pour faire les avant le procès même. Pour assurer que Thomas Lubanga est en bon état, aussi pour assurer qu'il a reçu toute l'information pour se préparer le procès même.
Après Thomas Lubanga, qui est la prochaine cible?
Non, on peut pas dire maintenant. Mais en tout cas, nous sommes là-bas. Nous sommes avec le RDC pour le longtemps.
Vous l'avez entendu, toutes les personnalités impliquées dans les crimes de guerre et crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo seront poursuivies, quel que soit leur rang et leur nationalité. Ceci répond sûrement aux préoccupations des habitants des Mousipela, le fief de l'UPC à Bounia. Interrogés hier, certains d'entre eux condamnent le transfert de Thomas Lubanga à La Haye et se demandent d'ailleurs pourquoi seulement Thomas Lubanga et pas d'autres. Suivez leur réaction.
Bon, personnellement, je vois qu'on n'a pas suivi d'abord la procédure. Donc il a fallu d'abord les pays puissent juger d'abord l'autre ici, le Thomas ici. Et que maintenant, si on voulait faire la traduction, on pourrait demander d'abord la justice congolaise et pour le transmettre d'abord aux Pays-Bas.
Moi, je demande pourquoi on doit juger Thomas Lubanga et pas les autres. Parce que ce que Thomas Lubanga a fait, moi, je vois que c'est une défense légitime. Parce que ce n'est pas Thomas Lubanga qui a commencé à tuer. Il faut d'abord commencer par l'FNI et prendre Thomas Lubanga après.
Ces propos ont été recueillis par Askin Zigwe Tayoro à Bounia. La MONUC, pour sa part, salue le transfert et l'inculpation par la Cour pénale internationale aux Pays-Bas de Thomas Lubanga. Dans un communiqué rendu public hier, la mission des Nations Unies au Congo estime que cette décision de la Cour pénale internationale est un premier pas en avant dans la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo, ainsi qu'un signal fort à l'endroit de tous ceux qui continuent à torturer, piller ou tuer des populations civiles innocentes partout dans le pays. Dans le même document, la mission des Nations Unies au Congo considère que cette décision de la Cour pénale internationale qui fait de Thomas Lubanga son premier prisonnier est plus que symbolique et porteuse d'espoir. Elle intervient au moment où la République démocratique du Congo entame la dernière ligne droite de sa longue et pénible transition, estime la mission onusienne. Bouclons ce chapitre consacré à la réaction par Human Rights Watch pour l'ONG de défense des droits de l'homme. C'est un premier pas bienvenu vers la fin de l'impunité au Congo, elle a annoncé dans un communiqué publié. Recrudescence de l'insécurité à Guémena, au nord de la province de l'Équateur. Ceci intervient avec le regroupement dans cette ville de plus de 2800 militaires. Ces éléments proviennent de Zongo, Libengue, Dongo et autres localités avoisinantes. Depuis un mois, ils attendent d'être admis au centre de la CONADER, la Commission nationale de démobilisation et réinsertion pour leur orientation. De Mbandaka, les explications de Paul Richard Malingel.
À leur arrivée à Guémena, la plupart de ces combattants se sont accompagnés de leurs membres de famille et détiennent encore des armes. Pour faire face à la dégradation actuelle de leurs conditions de vie, ces éléments se livrent carrément à des tracasseries sur la population. Selon les habitants joints au téléphone, ils ravissent argent, vélos et vivres, notamment aux paysans qui viennent des villages environnants. Malgré les mesures prises par le Conseil de sécurité du Sud-Ubangi ainsi que par les autorités de la troisième région, les tracasseries militaires se portent encore bien dans cette cité. Un activiste des droits de l'homme contacté également rejette la responsabilité sur la CONADER qui, selon lui, tarde à assurer la prise en charge alimentaire de ses combattants. Pour sa part, le coordonnateur provincial de la CONADER Équateur précise que, selon le processus DDR, son institution ne peut prendre en charge les combattants que pendant leur séjour dans le centre d'orientation. Toutefois, depuis jeudi dernier, la CONADER a commencé le désarmement des combattants par bataillon. Avec cette disparition d'armes en circulation à Guémena, plus d'un habitant espère que bientôt, ces combattants seront moins nocifs et que la sécurité va revenir dans leur cité. Mbandaka pour le Richard Malingela, Radio Okapi.
Quittant l'ouest pour l'est du Congo, précisément dans le sud Kivu, où une ONG de Shabunda dénonce l'impunité dont bénéficient les auteurs de viols. Selon la Coordination pour la promotion et le développement des femmes, une fillette de 9 ans a été violée plusieurs fois depuis décembre dernier par un homme à Kipombe, environ 18 km de Shabunda Centre. L'homme soupçonné de viol est un chef de foyer minier de cette localité. Il est accusé d'avoir abusé de la fille dans la forêt en l'absence de ses parents. Selon cette organisation des droits de l'homme, jusqu'à présent, rien n'a été fait. L'enfant n'a pas été soigné faute de moyens. L'individu continue à exercer son métier. On écoute Adèle Sekanabo, animatrice de l'ONGCPD, Coordination pour la promotion et le développement des femmes, au micro de Charlotte Ngungi Selemani.
Jusqu'à présent, on avait accusé le type qui avait commis l'acte, mais n'est pas puni jusqu'à présent. Il est libre. Il est en train seulement de sillonner ici dans le village. On n'a pas même tenu au traitement, aux soins de cet enfant. Pour aider la famille, et je suis avec l'ONG 16, nous sommes en train de poursuivre et nous aidons aussi l'enfant, nous l'amenons à l'hôpital. Nous cherchons le processus pour trouver les autorités militaires, afin qu'ils puissent rendre justice à qui de droit.
Global Rights appelle la Cour suprême de justice à constater l'inconstitutionnalité des dispositions légales concernant le traitement des magistrats. Appel lancé dans une requête adressée à cette juridiction judiciaire par l'ONG des droits de l'homme. Maître Laurent Okito Nembo, membre du groupe stratégique attaché à Global Rights, est au téléphone de Belinda Bossouma.
Nous avons initié cette requête parce que nous pensons qu'il y a quelque chose à faire pour le statut de magistrat qui est toujours en vigueur et l'ordonnance d'organisation judiciaire portant organisation du Conseil supérieur des magistratures et les décrets fixant les attributions des ministères qui sont des textes déjà dépassés dans ce sens que par rapport à la Constitution de la République démocratique du Congo, il y a des dispositions qui sont en contradiction avec cette nouvelle Constitution. Ce qui fait que, dans le cadre de la synergie du lobbying qui est en train d'être fait pour voter une nouvelle loi portant statut des magistrats et revoir tout ce texte-là pour le mettre en phase avec l'état de droit qui est promu par la Constitution actuelle, et l'Assemblée nationale puisse voter la loi portant statut des magistrats, cela n'a pas été fait et nous avons trouvé appui justement dans la Constitution de la Troisième République.
Il est 9h10 dans 5 secondes à Lubumbashi. Présenter le fonctionnement de l'appareil judiciaire, tel est l'objectif qui s'est fixé l'ONG internationale RCN en organisant une journée porte ouverte au tribunal de paix de la commune Lakinya hier à Lubumbashi. Au cours de cette journée, après l'exposé de l'orateur, la population des communes de Kena et Katuba ont dénoncé certaines mauvaises pratiques des policiers, telles que la corruption, le système de caution payé lors du dépôt de la convocation ou encore le non-respect des droits des citoyens. Reportage, collègue Djuma Moussompo.
Nul n'a le droit de torturer quelqu'un ni de faire payer la caution appelée Yamakolo qui est généralement réclamée quand la police dépose une convocation ou encore de garder un prévenu au-delà de 24 heures au cachot. C'est en ces termes que s'est exprimé ce samedi matin l'adjudant Clet Mazoo, officier de police judiciaire devant une centaine de personnes venues à la cérémonie. La loi dit ceci, si un OPJ arrête quelqu'un, il ne peut pas le fouetter, ni même le torturer. À partir d'aujourd'hui, toute la population doit savoir que la loi interdit de telles pratiques de torture. Pour les nombreux habitants présents, le discours de l'officier est très loin de la réalité. Ils ont dénoncé entre autres le fait que les policiers exigent de l'argent aux visiteurs qui apportent la nourriture aux personnes détenues dans les cachots. Pour les habitants, les policiers sont responsables de nombreux abus.
Théoriquement là c'est bien. Est-ce que la faisabilité de cette loi? Parce que vous savez, comment voulez-vous trouver des gens un OPJ? Ici l'on vient de dire que non, l'OPJ, la plainte n'est pas payable. Or, lorsque vous venez ici pour déposer une plainte, l'on vous demande une caution et on vient encore, il faut encore retirer cette plainte-là. Il faut reverser encore une autre caution.
D'autres journées portes ouvertes sont prévues dans d'autres communes de Lubumbashi dans les jours qui viennent. Pour les responsables des RCN, le but reste de permettre à la population civile de connaître ses obligations et surtout ses droits. Lubumbashi, Colin Djuma Moussompo, Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons que vous êtes toujours à l'écoute de la radio Capi, la fréquence de la paix. La situation humanitaire dans trois territoires du district de la Tchopo, en province orientale, toujours jugée très grave par le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA. Des villages entiers sont ravagés par la maladie du sommeil, la cécité des rivières et autres maux, occasionnant d'importants mouvements de population. Des milliers d'hommes et de femmes vivent presque nus, manquent jusqu'au sel pour leur nutrition. Voilà le tableau sombre peint par une mission humanitaire mixée à séjourner dans le territoire d'Isangi, Yaouma et Basoko, en aval de Kisangani sur le fleuve Congo. Docteur Simon Bokongo Kawaya, coordonnateur de l'ONG Médecins Congolais pour la paix, a fait partie de cette mission mixte coordonnée par OCHA. Il a donné son témoignage dans une conférence de presse organisée hier à Kisangani par OCHA. Il est au micro de José de Chartemeng.
La situation est plus que grave. Elle est plus que grave puisque le taux de la maladie du sommeil, qui est considéré comme très grave à 1%, atteint jusqu'à 15% au niveau du territoire du sang. Ce sont des situations jamais rencontrées au monde et surtout dans ce 21e siècle. C'est aussi grave puisque, par exemple, à Yaouma, la cécité des rivières, qui ne frappe que les gens âgés de plus de 20 ans, commence même à frapper les enfants de 8 ans, de 10 ans. C'est très grave puisque ces populations-là, minées par les maladies, n'ont aucune force et ils ne disposent pas d'outils pour travailler. Ils sont vulnérabilisés et ils sont à la merci de la nature. C'est pratiquement un dépeuplement qui est en train de se faire à petit feu là-bas.
Le Bureau de coordination des affaires humanitaires, le Bureau des Nations Unies, bien sûr, entend sensibiliser différentes organisations afin de voler au secours des populations sinistrées de ces trois territoires du district de la Tchopo, dont la province orientale. Santé encore, le paludisme, les infections respiratoires aiguës, la diarrhée et la malnutrition constituent un danger permanent pour la population de la zone de santé des Pangui. Nous sommes dans la province du Maniema. Il faut ajouter à cela une carence de certains médicaments et l'insuffisance de personnel qualifié. Témoignage du médecin chef de zone de santé de Pangui en mission de service à Kindu, Boyi Bouli Bongo Albert, au micro de Mathieu Lungamo Wamanachebe.
Nous revenons de Yaoundé. Nous avons été dans une mission d'investigation sur la suspicion d'une épidémie de grippe chez le peuple pygmé et leurs voisins. Les patients se présentent souvent avec une fièvre qui ne cède pas aux antipaludiques, une fièvre qui est intermittente et surtout ils ont une irritation de la gorge et ce sont des malades qui vous toussent assez sérieusement. Aussi, on peut voir un écoulement nasal pour certains malades. Voilà les quelques signes principaux que nous avons retrouvés chez la plupart des patients. C'est contagieux, se transmet par voie aérienne, d'un homme à un autre, par des fluges, et quand on parle, on n'a pas pu faire les prélèvements. Et nous-mêmes, nous avons présenté certains signes en faveur de ce syndrome, ce qui fait que même chez nous, on peut prélever. C'est pourquoi nous sommes en quarantaine pour surveillance, éventuellement pour un prélèvement.